Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité Philippe Granarolo. Il est agrégé de philosophie et docteur d'état ès-lettres. Il a enseigné la philosophie en classe préparatoire à Bastia avant de poursuivre sa carrière en classe de Cagnes à Toulon. Il est membre de l'Académie du Var. C'est un conférencier réputé qui prend la parole dans toute la France. Alors il met régulièrement en ligne sur sa chaîne YouTube Page Granarolo des vidéos originales et des enregistrements de ses principales conférences. Il vient de sortir un livre qui s'intitule « Philosopher au fil des saisons », 70 citations commentées pour éclairer notre présent. Et c'est un livre qui est paru chez Guitre et Daniel, éditeur. Philippe Granarolo, bonjour.
Bonjour, vous savez tout sur moi, j'ai l'impression.
Disons que j'ai bien lu le communiqué de presse.
Très bien.
Alors, plus sérieusement, justement, alors c'est vrai que votre livre est assez intéressant, il fait réfléchir, mais quand on voit la situation un petit peu alarmante dans laquelle on se trouve aujourd'hui, est-ce que la philosophie peut nous apporter un secours?
Ah, j'en suis persuadé, ça a été en tout cas ma conception de la philosophie. Soit on est historien de la philosophie, on essaye de resituer le philosophe dans son contexte historique, mais du coup c'est relatif, c'est les contenus qui sont souvent dépassés parce que les choses évoluent. Soit on considère, et c'est mon cas, que les philosophes ont des messages hors du temps, que Platon par exemple, pour ne prendre que lui, par rapport à la démocratie, a des choses à nous dire aujourd'hui qui sont peut-être plus importantes que ce que nous disent certains journalistes ou certains penseurs contemporains. Donc moi, ce sont ces philosophes qui nous éclairent. J'ai souvent fait des séries de conférences, ces grands philosophes qui éclairent notre présent. Donc c'est mon approche de la philosophie qui est peut-être plus présente encore dans ce livre que dans mes livres antérieurs qui étaient souvent plus spécialisés. Voilà, je dis que c'est mon premier livre de philosophie grand public. Voilà.
Alors, dans votre livre « Philosophie au fil des saisons », vous nous proposez 70 citations commentées pour éclairer notre présent. Alors, Philippe Granarolo, dans l'océan de la philosophie, comment faire pour justement choisir 70 citations? C'est pas évident quand même.
C'est pas évident du tout. Si vous voulez, j'avais fait des petites vidéos qui s'appelaient les phrases de la semaine pendant 2 ans que j'ai mis sur YouTube et sur ma chaîne Facebook également. Et puis quand j'ai terminé de faire ça au bout de 2 ans, les amis m'ont dit mais il faut faire un livre avec ça. Et j'ai eu la chance de trouver l'éditeur Très Daniel qui a été très favorable. Donc j'ai fait une sélection parmi ces citations. Il y en avait sur 2 années, une par semaine, donc il y en avait plus de 100. J'en ai retenu 70. Je les ai réécrites, j'ai réécrit mes commentaires évidemment, et puis j'ai choisi celles qui me semblaient les plus abordables, les plus accessibles, et celles qui éclairaient le mieux, comme pour justifier mon sous-titre, l'époque dans laquelle nous sommes. Voilà, j'aborde tous les grands sujets de société, c'est ce qui fait peut-être l'intérêt de ce livre.
On va peut-être en citer une, sauf que ce n'est pas vraiment un philosophe.
Il
n'y a pas que des philosophes, alors c'est parfait. Alors, non, c'est une citation d'Albert Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, moi, voilà. Je trouve ça particulièrement réaliste, hein, c'est vrai, c'est très bien pensé.
on cite à tour de bras la phrase d'Einstein sur les abeilles, elles disparaissent, l'humanité n'en a plus que pour 4 ou 5 ans, j'ai oublié le chiffre, mais celle-là me parut tout à fait intéressante. Effectivement, cette idée, elle est à la fois liée à sa théorie physique, au mouvement, c'est un grand spécialiste évidemment des choses qui se déplacent à grande vitesse, vitesse de la lumière, etc. Mais j'ai trouvé cette citation très intéressante, cette idée que il faut se méfier de l'arrêt évidemment. Quand on est à bicyclette, à part les grands spécialistes ou les hommes de cirque qui savent faire du surplace, il faut pédaler pour ne pas se casser la figure. Donc voilà, cette citation, elle correspond bien à ce que j'ai développé dans le commentaire, à savoir qu'il faut accepter le mouvement, il faut accepter d'avancer en permanence, c'est souvent difficile, mais il faut jamais éviter de se crisper sur un instant présent ou sur le moment, parce que tout est évolutif, c'est ce que disait le grand Héraclite dans l'Antiquité grecque, le fleuve qui coule, voilà, nous sommes dans un fleuve qui coule sans arrêt.
Alors notez quand même qu'aller trop vite, l'excès de vitesse, ça peut aussi faire perdre l'équilibre.
C'est exact aussi, il ne s'agit pas de penser tête baissée, mais il s'agit d'être en mouvement, voilà, d'accepter le mouvement et de ne pas le refuser.
Alors, est-ce que vous, parmi toutes ces petites phrases-là que vous citez dans le livre, il y en a 70 en tout, il y en a une que vous appréciez particulièrement?
Oh, il y en a plusieurs. Ben, il y a les citations de Nietzsche, évidemment, qui est le philosophe sur lequel j'ai le plus travaillé, que j'aime beaucoup. Il y a les citations de Nietzsche sur la Corse, par exemple, que j'aime bien, sur la vendetta, par exemple, sur la fierté corse. Voilà. Donc j'ai écrit un bouquin où je me suis mis à la place de Nietzsche. J'ai écrit d'un journal qu'il aurait pu écrire. Et dans ce bouquin, il y a un chapitre sur la Corse. Il rêvait d'aller en Corse, il n'y est jamais allé. Mais effectivement, il se passionnait pour ce thème. Il voulait faire en sorte que son meilleur ami, qui était son secrétaire, Heinrich Köselitsch, qu'il avait rebaptisé Peter Gass, crée un opéra carrément sur la vendette. Il voulait se rendre en Corse avec lui pour étudier la vendette. Donc j'aime bien ces citations de Nietzsche sur la Corse, parce qu'elles font partie d'une recherche que je mène depuis très longtemps.
Alors pourquoi cet intérêt pour le philosophe, pour Nietzsche ?
Alors, ben, c'est un rapport direct avec ce qu'on disait il y a quelques minutes, parce que, si vous voulez, j'aurais pas pu passer ma vie, moi, chez Platon ou chez Kant, en quittant mon époque, en me plongeant dans des siècles passés depuis très longtemps. Avec Nietzsche, j'ai eu l'impression de pas quitter mon temps. Donc, je me suis passionné pour un philosophe du 19e siècle, mais qui parle de nous aujourd'hui et qui parle peut-être même de nous demain, parce que moi, j'ai la certitude que Nietzsche, c'est ainsi que je l'ai qualifié dans mes écrits, c'est un futurologue, c'est quelqu'un qui a décrit des scénarios possibles, d'où l'impression de contradiction qu'on peut avoir, parce que si un futurologue vous décrit l'an 2100 comme paradisiaque et que 3 ans après il écrit un livre sur l'an 2100 comme catastrophique, il se contredit pas. Il dessine ce que Bertrand Jouvenel, j'ai rencontré son fils d'ailleurs à Paris à l'occasion d'une conférence sur ce sujet, appelait des futuribles. Voilà, Nietzsche, il décrit des futuribles et c'est ce qui fait son intérêt. Donc il est même en avance, à mon avis, sur notre époque. Donc en travaillant sur Nietzsche pendant 40 ans de ma vie, j'ai jamais quitté mon siècle pour lequel je me passionne.
C'est vrai, alors Friedrich Nietzsche, futuriste. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes qui sont futuristes selon vous ?
Oh oui, il y a personne qui a des aspects un petit peu futuristes, mais je crois que tous les grands philosophes ont des... J'hésite à employer l'expression de flash qui nous mènerait dans une autre direction, mais ils ont des intuitions, parce qu'ils creusent tellement les choses que finalement ils découvrent. C'est un peu comme ça que travaillent d'ailleurs aujourd'hui les futurologues, enfin les meilleurs d'entre eux. Ils détectent des tendances qui sont très difficiles à percevoir, qui sont toutes petites peut-être à l'époque où ils parlent, mais dont ils pressentent qu'elles vont s'accentuer et qu'elles vont devenir les dominantes du siècle ou des siècles à venir. Et je crois que les grands philosophes, au fond, moi, j'ai qualifié Nietzsche de futurologue parce que c'est mon philosophe préféré, mais peut-être que si j'avais travaillé sur Rousseau, sur Kant et même sur Platon, j'aurais qualifié ces philosophes eux aussi de futurologues.
Alors, je pense que vous devez aussi apprécier Claude Lévi-Strauss, d'ailleurs vous le citez,
ah,
hein.
Oui.
Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. C'est bizarre, ça me fait penser à un raisonnement talmudique, ça.
Oui, mais c'est une très très belle phrase et tout à fait essentielle. Le trouble qui a gagné les esprits au XXe siècle, c'est que la science était considérée comme apportant des vérités définitives, c'est ce qui l'opposait aux croyances qui sont évolutives, et puis on s'aperçoit que la science évolue et qu'elle rejette des théories qu'on croyait immuables. Et donc du coup, certains sont allés jusqu'à rejeter la science, bien entendu, et c'est une erreur gravissime. Donc il faut redéfinir la science, hein. C'est ce qu'a fait Karl Popper, par exemple, le grand philosophe anglais, en disant non, la science c'est le domaine de ce qui est réfutable, falsifiable. Une théorie est scientifique si un jour on peut la dire elle est fausse parce que telle expérience ou tel raisonnement montre qu'elle est invalide. Et Lévi-Strauss reprend au fond cette idée. Donc le philosophe, c'est pas celui qui apporte des réponses définitives, mais c'est lui qui ouvre des perspectives, qui nous amène à regarder le monde différemment. Moi, j'aime beaucoup ce thème du regard, je l'ai beaucoup travaillé. J'ai une conférence qui s'appelle « Un nouveau regard » qui a bien fonctionné. Je pense que les grands philosophes nous amènent, et Nietzsche lui-même est un de ces voyants, en quelque sorte. Il regarde des choses avec des yeux nouveaux, et c'est ce qui fait sa puissance. Et Lévi-Strauss, je crois, fait partie de cette grande famille, de ceux qui nous ouvrent les yeux.
À un moment donné, vous citez Sigmund Freud, alors c'est une phrase extraite de l'Avenir d'une illusion, et quelle courte vue que d'aspirer à l'abolition de la civilisation. Ce qui resterait alors serait l'état de nature, et celui-ci est de beaucoup plus difficile à supporter. Alors, c'est une vérité difficilement réfutable, mais
oui.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Sigmund Freud, avec ses écrits, avec l'Avenir d'une illusion, et notamment avec Malaise dans la civilisation, il est vraiment d'actualité quand on voit ce qui se passe dans le monde ?
Totalement, totalement. Ce sont deux très grands livres. Enfin, moi, je me passionne pour le Freud philosophe. Le Freud psychanalyste m'intéresse, évidemment, indirectement, mais je ne suis pas psychologue. Donc c'est ce Freud-là qui m'intéresse. Freud qui a vécu une période qui ressemble à certains égards à la nôtre, hein, ces années 30 qui sont des années terribles, qui préparent la montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Freud pressent une sorte de rechute dans la barbarie en considérant qu'au fond, et là il nous ouvre les yeux, on sort de l'illusion des Lumières, même si elle était très belle, cette illusion des Lumières, la civilisation est éternelle, on va progresser éternellement. Non, la civilisation est très fragile, c'est une petite écume à la surface de la mer, et c'est Schopenhauer qui avait dit ça. Freud est un grand lecteur de Schopenhauer. Certains disent parfois que Nietzsche l'a influencé, mais c'est Schopenhauer qui l'a profondément influencé.
Tout à fait.
Donc la fragilité de la civilisation, voilà. Et donc on pourrait à chaque instant retourner, et on a tous en nous cette idée un peu tordue que les lois sont pénibles et qu'un monde sans loi et sans police et sans justice serait merveilleux, on pourrait satisfaire tous nos désirs, sauf qu'on oublie que les autres aussi pourraient satisfaire tous nos désirs, et parmi ceux qui peuvent satisfaire tous leurs désirs, il y a les céréales qui l'errent, tous les individus de mauvaise aloi, et donc ce serait l'enfer. Et Freud a beaucoup lu Hobbes également. Hobbes dit des choses remarquables sur ce sujet. Pour moi, c'est un très très grand penseur politique. Donc l'état de nature qui serait l'enfer en réalité. Donc tout vaut mieux que l'état de nature.
Vous, voilà. Vous savez, déjà bien bien avant Freud, dans la philosophie hébraïque, je ne sais pas si vous avez lu le traité des Pères, il est écrit « Prie pour le salut de l'État », parce que si les gens n'avaient pas peur des lois, si les gens n'avaient pas peur de la justice, ils s'entre-dévoreraient entre eux.
Ah ben, très belle formule. Je vais me replonger dans cette lecture parce que c'est tout à fait passionnant.
Je peux vous dire que c'est écrit quelques années avant Freud.
Oui, quelques années, comme vous dites.
Voilà. En tout cas, donc, Freud reste sur le plan philosophique. Est-ce qu'on peut dire que lui aussi, c'est un philosophe de l'avenir, c'est un avant-gardiste?
Oui, en tout cas, sur les faces les plus sombres de l'avenir, oui, il a pressenti tout ce qui pourrait nous arriver de fâcheux, et cet effondrement et Malaise dans la civilisation est un très grand livre, et je pense que c'est un livre qui n'a pas pris une ride. Et Freud nous rappelle qu'au fond, quelque chose à la fois de très simple et de très important, comme tous les grands philosophes, un enfant qui vient au monde, sa pendule n'est pas réglée à 2025, hein, il est à l'état de nature, on ne transmet pas la culture par nos gènes et par l'ADN, donc c'est l'éducation qui va amener un enfant qui est à l'état de nature, qui est à l'état sauvage. On pense aux enfants sauvages qui ont passionné les hommes du 19e siècle, donc il est à l'état sauvage, il faut l'amener à l'état de nature, et au fond, on a l'impression, et c'est un très beau raisonnement que Freud, que l'enfant qui vient au monde, il établit une sorte de deal. Bon, je veux bien accepter vos interdits, tout le côté pénible de votre civilisation, si en revanche vous m'apportez l'amour, la sécurité, le bien-être. Et si il s'aperçoit que la société ne lui apporte plus l'amour, la sécurité, le bien-être, eh bien, il dit c'est un marché de dupes, hein, je reprends ma signature et je reviens à l'état sauvage. Et c'est comme ça que les choses se passent malheureusement aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de nous.
Finalement, c'est quand même une bonne chose de s'intéresser par moments à la philosophie, parce que ça nous pousse quand même à faire travailler notre cerveau, ça nous pousse à réfléchir.
Complètement, je crois que c'est le remède numéro un contre la dégénérescence cérébrale.
Alors Philippe Granarolo, donc nous arrivons au terme de cet entretien. Alors je rappelle le titre de votre livre, Philosopher au fil des saisons, 70 citations commentées pour éclairer notre présent. Et c'est un livre qui est paru chez Guy Trédaniel, éditeur. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Philippe Granarolo, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.